Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Le bureau de l'Assemblée nationale décide d'envoyer une mission parlementaire de 10 députés pour réconcilier la population à Kamouisha dans les Kassai ou la cohabitation entre les travailleurs de la société Arabie Constructeur venue du Grand Bandundu et quelques habitants du Kassai est devenu difficile. Et puis, nous sommes le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse en RDC. J'aide journalistes en danger dresse une statistique paralysante de la liberté de la presse. 75 cas d'entête documentés, dont 19 journalistes arrêtés et 11 médias fermés. Enfin, le silence du gouvernement congolais sur les menaces exercées par le Rwanda sur Madame Deborah Kayembe, avocate britannique d'origine congolaise et recteur de l'université d'Edinburgh, étonne le professeur Nopes Kibiswa. Il s'exprime dans cette édition du journal. Il est notre invité. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Cohabitation difficile entre les travailleurs de la société Arabie Constructeur venue du Grand Bandundu et quelques habitants du Kassai. Le bureau de l'Assemblée nationale décide d'envoyer une mission parlementaire des 10 députés pour réconcilier la population. Cette situation qui prévaut actuellement à Kamouisha, près de Tchikapa, a été minutieusement analysée ce lundi peu avant la plénière entre le bureau de l'Assemblée nationale et le caucus des députés du Grand Kassai et ceux du Grand Bandundu. Animés tous ensemble par un souci de voir la population cohabiter pacifiquement, les députés nationaux ont approuvé au cours de la plénière de ce lundi la mise en place d'une mission parlementaire qui se déplacera pour Tchikapa, précise le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodia est au micro de Michel Kifindangoy.
À la suite de malentendus qu'il y a entre les travailleurs de la société Arabica Constructeur qui est en train de construire la route Batsamba, Kananga et jusque au Katanga. Donc il y a eu des tensions entre les travailleurs et nous avons analysé la situation. Votre bureau vous propose d'envoyer une mission de 10 honorables députés à Tchikapa pour aller réconcilier et pacifier notre population. Donc 10 collègues, 5 députés nationaux élus dans les grands Bandundu et 5 députés nationaux élus dans le Grand Kassai vont faire ce déplacement pour cette mission.
Toujours au sujet de cette situation, le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou appelle toutes les communautés à la cohabitation pacifique et au calme. Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, son porte-parole invite les gouverneurs de l'ancien Grand Bandundu à se concerter rapidement avec leurs collègues du Grand Kassai pour mettre fin à cette tension. On écoute Albert Mukulubundu, joint par Alain Rung.
Nouvel Élan en tant que parti de gauche, descendant de Lumumba, ce dernier mort pour l'unité du peuple congolais et du Congo, ne peut admettre qu'après 62 ans d'indépendance et en plein 21e siècle que les Congolais se haïssent mutuellement. La pauvreté dans notre pays résulte non seulement de la mauvaise gestion des régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays, mais aussi de la déstabilisation extérieure. Les Bandundois, les Kassaïens, les Katangais sont tenus de vivre en harmonie sur toute l'étendue du territoire national. Nouvel Élan invite les Congolais à ne pas se tromper de cible. La coalition au pouvoir est responsable de la situation actuelle car elle a prouvé aux yeux du monde son incapacité à trouver ne serait-ce qu'un début de solution au problème du chômage. Les fonds détournés auraient servi à la création des emplois en République démocratique du Congo. Nous appelons au calme et demandons aux autorités locales de trouver rapidement une solution à cette tension créée dans le Kassai.
Et puis, restons au Parlement pour parler des enjeux autour de la loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale. Après la problématique de la suppression du seuil de représentativité et son remplacement par le seuil de recevabilité des listes au prorata de 60%, notre deuxième numéro de la série vous apporte des explications sur l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du système majoritaire simple. D'après le G13, cette innovation vise à renforcer la transparence dans l'attribution des sièges aux législatifs et une acceptation indiscutable des résultats par tous. Michel Kifindangoy.
Le mode de scrutin proportionnel plurinominal est un système électoral où le nombre de sièges à pourvoir est partagé en fonction du nombre de voix recueillies par chaque liste électorale. Ce système était appliqué au cours des élections de 2006, 2011 et 2018. En 2006, par exemple, Moïse Katumbi avait obtenu plus de 100 000 voix et avait fait élire 5 députés du PPRD sur les 11 sièges de la ville de Lubumbashi. Et pourtant, des candidats malheureux d'autres partis avaient obtenu plus de voix que ceux du PPRD déclarés élus grâce aux voix de Katumbi. Pour le G13, ce système ne reflète pas suffisamment la volonté du souverain primaire. Il devrait donc être remplacé par le système majoritaire simple. Jacques Joly.
Le système majoritaire permet de classer les candidats vainqueurs en ordre décroissant. S'il y a 15 sièges, les 15 premiers sont proclamés élus. Et ça, sa population comprend parce qu'il y a un lien direct entre les candidats élus et volonté du peuple.
Si ce système majoritaire est adopté, seront proclamés élus tous les députés ayant obtenu le plus de voix et par ordre d'arrivée dans les circonscriptions électorales.
Notez qu'après la réplique du G13 au débat général qui a fait plus de 3 jours, la proposition de loi électorale a été déclarée recevable hier lundi par l'unanimité des députés nationaux. Pour renforcer les consensus politiques autour de cette loi, une plénière est prévue afin de permettre à la majorité et l'opposition à lever les options politiques sur notamment le seuil de représentativité, le mode du scrutin, mais aussi l'utilisation de la machine à voter. Et puis, début ce lundi 2 mai de la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées par ce scrutin. Au Congo central, le siège de l'Assemblée provinciale a vibré depuis hier lundi matin au rythme de cette campagne. Les affiches des candidats sont visibles au siège de l'organe délibérant et dans ses encablures. Ce constat est très apprécié par le rapporteur adjoint de la CENI. Paul Moyindo a été reçu ce lundi par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central dans le cadre des préparatifs de l'élection du 6 mai prochain. Il estime que cette liberté d'afficher prouve que les droits de tous les candidats sont respectés. Le point avec Nana Pluriche Mambo.
À l'Assemblée provinciale du Congo central, une ambiance festive marquant les débuts de la campagne électorale était observée depuis hier lundi matin. L'enceinte de l'Assemblée provinciale s'est avérée petite pour contenir les affiches et banderoles de toutes dimensions des 22 candidats en lice pour les postes du gouverneur du Congo central. Ces supports et des vidéoprojections sont visibles même dans les environs du siège de cet organe délibérant. Les militantes et militants, vêtus en t-shirt blanc avec photos de leurs candidats et arborant des drapelets, ont pris d'assaut ces sites. Ils dansent et chantent au rythme de la fanfare. Reçus par les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central dans le cadre des préparatifs de ces scrutins, Paul Moïndo, rapporteur adjoint de la CENI, a apprécié ces constats.
Comme l'avait prévu notre calendrier, on constate effectivement qu'il y a une bonne campagne qui s'organise parce qu'on a des affiches un peu partout. Nous félicitons l'Assemblée qui a permis à ce que tout le monde puisse avoir accès, parce que c'est ce que la loi dit. Tous les candidats doivent avoir le même accès et ils ont leurs affiches jusqu'au 3.
Notons que les candidats défileront devant les députés provinciaux ce mardi pour présenter leur plan d'action. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
75 cas d'entête à la liberté de la presse, dont 19 journalistes arrêtés et 11 médias fermés. Tel est le bilan que Journalistes en danger, JED, dresse depuis la tenue des états généraux de la presse du 25 au 28 janvier dernier. Dans un communiqué de presse publié hier lundi à l'occasion de la célébration ce mardi 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse, JED appelle le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à sortir de ce qu'il qualifie de léthargie face à la détérioration croissante de la situation sécuritaire des journalistes et médias. Je demande l'accélération de la mise en œuvre des recommandations des états généraux de la presse. D'autres détails sur ce communiqué de JED avec vous, Alain Hirung.
Dans ce communiqué, JED indique que 3 mois après la tenue des états généraux de la presse, aucune de ces 80 résolutions n'a connu un début d'exécution, en dépit de la mise en place d'un comité de suivi de ces états généraux présidé par le ministre de la Communication. Les journalistes et les médias congolais restent exposés aux diverses pressions et censures, aux arrestations arbitraires et aux menaces directes et indirectes, particulièrement dans les provinces de l'Est du pays sous état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, souligne le communiqué. Au moment où le monde célèbre cette journée dédiée à la liberté de la presse, 6 journalistes croupissent en prison à Mbandaka et à Bumba. 3 médias sont fermés à Mbujimayi et à Mbandaka. Plusieurs journalistes ont rapporté à GED qu'ils ont été l'objet des menaces et agressions dans l'exercice de leur métier. Alors que l'UNESCO a placé cette 31e journée internationale de la liberté de la presse sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique », GED appelle les autorités congolaises qui se sont engagées à promouvoir la presse et les médias pour qu'ils jouent leur rôle de quatrième pouvoir à passer des paroles aux actes, de renforcer la mobilisation de tous les acteurs contre les menaces et attaques des journalistes dans les zones d'insécurité ambiante où la liberté de la presse perd de plus en plus des espaces.
Par ailleurs, face à la montée du discours de la haine et à la recrudescence des dérives déontologiques nuisibles à la liberté de la presse constatées dans certains médias en ligne et hors ligne, GED lance un appel urgent aux instances de régulation et d'autorégulation d'entamer sans délai et sans atermoiement le travail de salubrité médiatique tel que décidé par les États généraux afin d'assainir la corporation et de promouvoir un journalisme plus éthique et plus professionnel. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique, par l'entremise de l'USAID, annoncent l'attribution $1,5 million à l'activité de développement du secteur des médias mise en œuvre par FH360 et Internews. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, à l'occasion ce mardi 3 mai de la Journée internationale de la presse. Ce financement supplémentaire aidera à lutter en RDC contre les informations erronées, les discours de haine et les fausses informations à l'approche des élections de 2023. Pour avoir des élections libres et équitables, les Congolais doivent avoir accès à des informations correctes sur le processus politique, indique le diplomate américain. Dans la province de la Tchopo, les enseignants des écoles primaires publiques sont allés en grève hier lundi. Ils ont pris cette décision le dimanche soir à l'issue de leur assemblée générale tenue à l'école primaire Etoka. Selon le représentant du syndicat national des enseignants dans des écoles primaires publiques, Victor Bonyoma Etofe, cette grève est motivée par le fait que le gouvernement n'a pas respecté sa promesse, celle d'augmenter 250 000 francs congolais en avril pour le deuxième palier et 189 000 francs congolais pour le troisième palier. Il exprime donc son désarroi au micro de Jacques Moukonkolé.
Tous les enseignants devraient être heureux. Mais ce qu'on attendait, c'était que même si les NEI sont mécanisés, qu'eux aussi viennent trouver cette chance-là de l'augmentation des non-salaires. Vous savez, il y a même d'autres enseignants qui ne touchent pas la totalité de leur salaire. Les enseignants, certains touchent 300 et 2 000 francs congolais. Mais les autres, par contre, ne touchent que 200 et 7 000 francs congolais. Pourquoi cette différence? Et aussi, la prime de la gratuité. Pourquoi cette catégorisation? Certaines écoles de la ville touchent 200 000 pour la prime de la gratuité. Mais nous autres, nous ne touchons que 30 000 francs congolais. Pourquoi cette différence? Même diplôme, même programme. Pourquoi cette... Alors, comme nous n'avons pas constaté qu'on a fait quelque chose sur nos salaires, l'augmentation alors de ce qu'on nous a promis, nous avons décidé, nous, enseignants des écoles primaires, Sinepep, d'aller en grève. Jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à nos revendications. Nous avons déjà déposé les cahiers de charges. Dès ce lundi, il n'y a pas cours aux écoles primaires.
Il est temps que la population itourienne tire les conséquences des conflits armés qui endeuillent cette province depuis 5 ans. Appel lancé ce lundi par le président de la communauté islamique en Ituri à l'occasion de la clôture du mois de Ramadan par des fidèles musulmans. À Bounia, un culte a été organisé par les autorités de cette confession religieuse afin de prier pour le retour de la paix. Pour Tchèque Choukran Biaroufou, le sang des innocents a déjà beaucoup coulé. Il exhorte les personnes qui détiennent illégalement les armes à les déposer pour s'unir aux efforts des autorités du pays. C'est là pour donner la paix à cette population dont la plupart croupit dans la misère à cause de l'insécurité. On l'écoute au téléphone de Jean-Claude Lokidile.
Oui, effectivement, il y a un programme bien conçu. Il y a déjà des sites d'abord ciblés. C'est pourquoi nous conscientisons les musulmans. Je fais dans mon serment, j'ai essayé d'expliquer aux musulmans d'adhérer à ce programme, de conscientiser les musulmans et les non-musulmans aussi, parce que ça n'a profité à personne. Et surtout que nous, les étudiants, on doit saisir l'opportunité, l'occasion pour, en tout cas, conjuguer vers la paix ensemble. Nous tuons nos mamans, nos filles, nos fils. Nous-mêmes, nous nous affections. Et alors, à qui en profite tout ça? C'est de perte en perte. Les gens souffrent. Nous sommes fatigués avec la guerre. Nous sommes fatigués. Vraiment, pardon. Si c'est le groupe armé, si c'est les politiciens, en tout cas, on vous demande pardon. Nous sommes fatigués. Aidez-nous à avoir la paix pérenne, à avoir une paix durable.
Actualité internationale.
Les enfants éthiopiens, premières victimes d'une sécheresse dévastatrice. Les conséquences de cette sécheresse sont graves, notamment pour les habitants. Des familles migrent vers d'autres régions du pays. Certains n'ont plus de ressources. Environ 600 000 ne vont plus à l'école. Des jeunes filles sont mariées car leurs parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. D'après Gianfranco Rotigliano, le représentant de l'UNICEF dans le pays, une conférence des donateurs organisée à Genève a permis d'obtenir mardi 26 avril 1,39 milliard de dollars américains pour aider la Corne de l'Afrique à lutter contre la famine qui menace cette année au moins 20 millions de personnes. Selon l'ONU, cet argent ira à des projets humanitaires et de développement en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, ont précisé les Nations Unies dans un communiqué diffusé à New York. La sécheresse actuelle dans la Corne de l'Afrique est la pire en 40 ans, est-il précisé. À cause de la sécheresse, 1 million de personnes ont déjà quitté leur foyer par manque d'eau et de pâturage et au moins 3 millions de têtes de bétail sont mortes.
L'invité.
Notre invité dans cette édition est le professeur Lopez Kibiswa, doyen de la coordination de la société civile Force Vive. Il s'exprime sur la situation politique et sécuritaire que traverse la RDC à l'issue des travaux que cette structure a organisés du 24 au 25 avril dernier. Dans un communiqué publié hier lundi, cette structure dit s'étonner notamment du silence du gouvernement congolais sur les menaces exercées par le Rwanda sur Madame Deborah Kayembe, avocate britannique d'origine congolaise et recteur de l'université d'Edinburgh, pour avoir entre autres dénoncé l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur la question des migrants. Le professeur Lopez Kibiswa s'entretient avec Alain Hirong. Suivez.
Professeur Lopez Kibiswa, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la coordination nationale de la société civile Force Vive demande au chef de l'État de lever l'état de siège? C'est pour le remplacer par quel autre mécanisme selon vous?
Pour être simple et bref, tout simplement, l'état de siège, non seulement qu'il a apporté un peu plus de poids sur les populations et sur la nation tout entière, en termes de privation des libertés et des droits fondamentaux, mais aussi parce qu'elle n'a pas apporté de gains proportionnels, des gains qu'on attendait de lui. C'est résultat insuffisant. C'est simple comme ça de dire comme ça. S'il y avait des résultats qui étaient au-delà des attentes, tout le monde allait dire c'est une bonne solution. Mais on voit très bien que tout continue comme avant l'état de siège et même pire qu'avant l'état de siège.
Alors ce serait pour le remplacer par quel mécanisme efficace selon vous?
Selon nous, de la société civile, notre solution c'est renforcer notre armée. Et en particulier, mais de l'État congolais en général, nous ne pouvons pas continuer de considérer que nous sommes un État si notre armée n'est pas à mesure ou ne reçoit pas les moyens d'être à mesure de défendre notre territoire. Notre police non plus, si elle ne reçoit pas ce qu'il faut pour occuper le terrain. Chaque centimètre de notre territoire doit être occupé par notre police et chaque centimètres aux frontières de notre territoire doit être occupé par notre police et notre armée.
Dans le même sens, pourquoi dans votre déclaration vous demandez au chef de l'État d'arrêter de faire recours aux troupes des pays voisins au moment où, selon certains observateurs, par exemple, la mutualisation des forces entre les armées congolaises et ougandaises semble porter des fruits sur terrain?
Je crois que vous aviez déjà entendu quelque chose comme ceci. Ce n'est pas celui qui crée le chaos qui peut venir vous sortir du chaos. Le créateur de tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les États voisins. Rappelez-vous de la coalition rwando-ougando-burundaise qui ont attaqué le Congo. C'est à partir de là que le chaos est entré chez nous. Et comment voulez-vous que les créateurs du chaos viennent aujourd'hui en mutualisation des forces pour nous sortir de ce chaos-là? C'est pas possible, bien au contraire.
La société civile Force Vive du Congo demande à la RDC d'exiger au gouvernement des pays voisins de négocier aussi la paix avec les groupes armés de leurs pays respectifs présents sur le sol congolais. Du point de vue de la réelle politique des relations internationales, pensez-vous que ce soit réaliste?
C'est justement ça la réelle politique. La réciprocité, c'est-à-dire le Rwanda demande au Congo de négocier avec les rebelles,
Mais si le Congo veut se faire respecter, et si le Rwanda respecte le Congo, eh bien c'est tout simplement au Rwanda aussi de faire autant que le Congo. C'est ça la dimension internationale, la réciprocité.
Enfin, professeur, dans cette déclaration, vous demandez la création d'un ministère en charge des politiques gouvernementales en matière de prévention des conflits génocides, gestion de la paix et des processus de réconciliation. Quelle en serait l'utilité selon vous?
L'utilité est même donnée dans la dénomination. Prévention. Nous sommes toujours dans la réaction. Nous sommes toujours dans le post-conflit. Le PDDRC, avant ça c'était Starek, avant cela c'était Amani, mais c'est toujours après qu'il y ait déjà conflit, nous commençons à chercher des solutions. Mais ces solutions-là se limitent quelque part. Mais si nous nous investissons d'abord et avant tout dans la prévention, comme vous le savez, prévenir vaut mieux que guérir. Donc si nous nous investissons dans la prévention, et la prévention ayant trois moments, il y a la prévention en aval, qui est la prévention proprement dite, qu'on appelle structurelle, il y a la prévention en cours du conflit et la prévention en aval du conflit. Et donc, aujourd'hui, comme nous sommes dans le conflit, nous allons commencer par la prévention en cours du conflit et les résultats qu'on aura engrangés de cette prévention en cours du conflit, qu'on appelle aussi prévention concomitante, va nous amener à la fin de la crise actuelle et à partir de la fin de la crise actuelle, nous allons passer à la prévention en aval et celle-là va par la boucle de ces trois types de prévention nous amener à la stabilisation définitive et les mesures vont rester longtemps plutôt que d'attendre toujours que nous soyons en difficulté pour commencer. Et là, nous aurons un état de paix durable.
Professeur Nopes Kibiswa, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.